Profil BM Paranormal.
The flying disc has been found.
El mítico Chupacabras.
Les enquêtes de Christian Page.
Christian Page, pour une dernière fois.
En 2018.
En 2018, bien sûr.
Bernard.
Alors, on commence avec une tombe en Égypte.
Voilà, et c'est amusant qu'on en parle parce que en ce moment, il y a depuis plusieurs mois, je te dirais peut-être un an et demi maintenant, il y a une véritable effervescence en égyptologie. Il y a plusieurs équipes qui travaillent sur le terrain. On utilise de l'équipement de pointe et ça permet des découvertes tout à fait fantastiques. Et l'une d'entre elles, c'est pas tellement mythe et complot, mais elle est si extraordinaire qu'on ne peut pas ne pas en parler. Mmh. Et c'est une découverte qui a été présentée le 15 décembre dernier par le directeur du département des Antiquités égyptiennes. Et il s'agissait de la découverte de la tombe d'un grand prêtre dans la vallée de Saqqara, là, où se trouve la pyramide à degrés de Saqqara. On parle ici d'une tombe qui a à peu près 4400 ans. C'est la tombe d'un grand prêtre qui s'appelle Watsiwata. C'était un grand prêtre qui vivait sous le règne du pharaon Néferit-Kara. Et ce qui est absolument extraordinaire ici, dont on a vu des images à la télévision.
Extraordinairement préservé, là.
Absolument. Hein? L'état de préservation de la tombe est remarquable. Ouais. Et ce qui est assez surprenant, c'est que la tombe est découverte dans une nécropole d'animaux. Et ça, c'est étonnant. Donc, on est à Saqqara, on a une équipe d'archéologues qui travaille sur le terrain. Ils ont mis à jour une nécropole d'animaux, parce qu'on le sait, les Égyptiens vénéraient les animaux et souvent les paraient de toutes sortes de rituels au moment de les inhumer. Donc, on a trouvé jusqu'à des insectes momifiés, scarabées momifiés, des chiens, des chats momifiés. Et là, voilà qu'au moment où les archéologues travaillent dans cette nécropole, ils vont mettre à jour un muret. Et c'est en dégageant le muret qu'ils vont trouver l'entrée de cette tombe. Donc, on a pénétré à l'intérieur. On est dans une grande chambre qui fait à peu près 10 mètres de long sur 3 mètres de large.
On est-tu dans une pyramide, là,
Christine? Non, on est réellement dans une tombe enfouie dans le sol,
okay.
Comme les fameuses tombes de la Vallée des Rois, là où on a trouvé le tombeau de Toutankhamon, par exemple. Donc, on entre dans la pièce. On est réellement, entre guillemets, l'antichambre, parce qu'au moment où on se parle, on n'a pas encore trouvé la chambre funéraire. On doit déblayer, nettoyer, mais déjà, on a pu pénétrer dans la première partie de la tombe qui, comme tu l'as mentionné, est conservée de manière tout à fait remarquable. Les coloris de nombreuses statues, elles ont des coloris tout à fait extraordinaires. Les fresques sont magnifiques. Mais on a découvert, au bout de cette chambre, on a accès à 5 puits. On n'a pas encore pénétré les puits, on n'a pas encore vérifié l'intérieur des puits, mais déjà, au moment où on se parle, les archéologues sont très enthousiastes à l'idée que la tombe ne soit pas pillée. Et ça, c'est l'élément exceptionnel, parce que rapidement, après que les pharaons, les nobles, les grands prêtres étaient mis dans leur tombeau. Rapidement, des pilleurs de tombe attendaient que les veilles soient terminées, parce qu'on veillait la tombe du pharaon, du noble, pendant quelques temps. Mais dès que la veille était terminée, des pilleurs de tombe pénétraient et s'emparaient des trésors de la tombe.
Et il y en avait des trésors.
On ne fait que regarder la tombe de Toutankhamon. Pourquoi la tombe de Toutankhamon, découverte en 1922 dans la Vallée des Rois, pourquoi cette tombe est-elle si exceptionnelle? Non pas que Toutankhamon était un grand pharaon. En fait, c'était un pharaon relativement secondaire, décédé en bas âge. Mais les trésors de la tombe étaient remarquables. Et c'est ce qui a fait que cette tombe est devenue si spectaculaire. Il faut quand même se le dire, Howard Carter, quand il a découvert la tombe, il a été d'une certaine façon chanceux parce que la tombe, il a découvert que la tombe avait été visitée par des pilleurs de tombes, mais ils ont dû probablement être surpris au moment où ils étaient à l'entrée de la tombe. Et ils ne sont jamais revenus. Et c'est pourquoi les trésors étaient encore intacts. Dans le cas de la tombe dont on parle, qui a été découverte, dont on a fait l'annonce le 15 décembre dernier, là encore une fois, les scellés, tout indique que la tombe n'a pas été pillée. Donc, évidemment, on n'est pas ici dans la tombe d'un pharaon. Il ne faut pas s'attendre à des trésors.
Mais moi, ça m'a surpris, je vais te dire. Je ne suis pas un expert, évidemment, en la matière. Mais je me suis dit qu'un grand prêtre, enfin, un prêtre, aussi grand soit-il, ait droit à une pareille tombe. Tu t'imagines? Un pharaon, ça devait être incroyable. La, comment dire, le,
le phasme autour de la tombe. Oui. C'est d'ailleurs les tombes, les grandes tombes comme celle de Toutankhamon par exemple, demeurent de véritables merveilles. Là. Les visiter, c'est sûr, les gens qui nous écoutent, c'est une des tombes que l'on peut visiter dans la vallée des Rois, la tombe de Toutankhamon. C'est tout à fait remarquable. Elle s'enfonce à 65 mètres.
Alors ça veut-tu dire que si il y a une tombe de grand prêtre à cet endroit-là, il pourrait y avoir tout près la tombe d'un ancien dirigeant, peut-être des
directeurs de chantier, hein, qui étaient très importants, qui étaient presque aussi vénérés, les architectes étaient presque aussi vénérés que le pharaon. Hein, on pense, un nom nous est encore parvenu, 5000 ans plus tard, on parle d'Imhotep. Hein, c'est un nom qu'on entend souvent. C'est le concepteur des pyramides, c'était l'architecte des pyramides. Donc, c'est un nom qui est resté et les architectes avaient énormément d'importance de statues auprès des populations. Donc, on peut imaginer ici qu'à partir du moment où on a découvert un grand prêtre, des membres de sa famille ou d'autres membres de la noblesse de cette même époque ont pu être enterrés tout près. Donc, c'est tout à fait remarquable et ça méritait d'être souligné.
Ah, vraiment, absolument. Et là, tu veux...
Il n'y a pas de lien. On est toujours dans cette effervescence de l'égyptologie.
Oui.
Mais disons que c'est une fin d'année mauvaise pour les abatteurs d'extraterrestres.
Ah!
Maudit Christian, t'es donc bien pas fin! En fait, c'est une autre découverte archéologique qui, elle, s'est faite à Atnob, qui est située près de Louxor, en Égypte. Et là, des archéologues ont mis à jour, ils travaillaient dans une carrière, ils ont mis à jour une rampe, écoute bien ça, une rampe dans un chantier, dans une carrière, mais qui date de l'époque du pharaon Khufu, le constructeur, en fait, le pharaon qui régnait, à qui on doit la grande pyramide. Donc là, on est dans quelque chose qui est absolument extraordinaire. Hein. Le pharaon, la grande pyramide, et là, on trouve un chantier où on faisait de l'extrait de pierre et notamment du marbre. Et là, on découvre que pour sortir les pierres de la carrière et le marbre, les Égyptiens s'aidaient d'une rampe.
C'est une des questions qu'on se pose.
Et voilà. On répond à cette grande question. On avait trouvé d'anciennes rampes, mais qui étaient antérieures à la construction des pyramides. On n'en avait pas trouvé de l'époque des pyramides. Et là, c'est la première. Et elle est très, elle est, la pente est très, très, très prononcée. Elle fait à peu près 20% de pente. C'est énorme. Les archéologues ne croyaient pas que les pentes étaient aussi prononcées que ça. Mais on voit, elle est entourée de deux escaliers avec des trous à plusieurs endroits dans la pente qui montrent que les Égyptiens utilisaient des traîneaux pour transférer les blocs, pour monter les blocs, déplacer les blocs. Ils utilisaient par exemple des espèces de palans en bois pour les aider à monter les pierres avec une rampe excessivement inclinée.
Et avec les trous, c'est pour...
On mettait des supports
en arrière pour la maintenir. Et au fur et à mesure où on l'avançait, on déplaçait les...
Exactement. Et on plaçait devant un peu comme des arches en bois qu'on faisait basculer, donc qui faisaient avancer le traîneau
à chaque fois.
Pourquoi c'est une mauvaise journée pour les extraterrestres?
Oui.
Parce que si tu es de ceux qui croient à l'hypothèse des anciens astronautes, et je rappelle aux auditeurs c'était quoi cette hypothèse, c'est que dans l'Antiquité, des extraterrestres auraient pris contact avec les grandes civilisations, les Égyptiens, les Mayas, les Incas, et les auraient aidés ou initiés à l'architecture ou encore aux connaissances mathématiques. Donc, ils auraient aidé les Égyptiens à la construction des pyramides, aux temples mayas, aux lignes de Nazca.
Et évidemment, si tu as des extraterrestres, tu n'as pas besoin de rampe.
T'as tout compris. Si t'as des extraterrestres ou si les Égyptiens connaissaient le secret de la lévitation et tout le reste, tout à fait exotique.
Mais avec des soucoupes volantes, voilà, t'es capable de lever le bloc.
Voilà, et t'as pas besoin éventuellement de construire une rampe avec des petits traîneaux en bois pour monter. Donc ici, cette construction qui date de l'époque du pharaon Khufu montre bien de quelle façon les Égyptiens utilisait en fait des connaissances architecturales et en fait de l'huile de bras pour déplacer ces blocs et finalement construire ce qui est encore aujourd'hui la seule des grandes sept merveilles du monde antique qui reste encore debout, à savoir la grande pyramide de Khéops. Donc, mauvaise journée pour les extraterrestres.
Les six autres, est-ce que tu les connais?
Il y avait le temple de Diane à Éphèse, il y avait les jardins suspendus de Babylone, le phare d'Alexandrie, le colosse de Rhodes,
C'est la seule des sept merveilles
du monde. Il y avait le mausolée d'Halicarnasse.
C'est où ça?
Ça, c'était dans le, en Syrie, je crois. Donc, on, les sept merveilles du monde, la seule qui est encore debout, c'est la grande pyramide de Khéops.
Ah, mais c'est très intéressant, c'est très intéressant. Alors, donc, nos extraterrestres...
en ont pris, ils ont pris du plomb dans l'aile.
C'est dur pour eux autres, là.
Absolument.
C'est dur pour eux autres. Mais je sais pas si tu as entendu l'entrevue que j'ai faite avec celui qui opère la sonde
Absolument,
spatiale
j'étais
New
en
Horizons.
Route, j'étais dans ma voiture, j'écoutais
C'est quand
ça.
Même assez fascinant, ça. Et puis, tu l'as entendu?
Oui, je l'entendais.
Il a dit, je suis absolument convaincu qu'il y a de la vie ailleurs. La question est de savoir maintenant... quand est-ce qu'on va la découvrir
voilà.
Ou quand va-t-elle nous découvrir? Mais ça, c'est un Québécois qui est allé étudier aux États-Unis, qui a travaillé sur la mission Cassini, qui a travaillé sur le robot Discovery qui s'est posé sur Mars. Alors, j'ai trouvé que le connaissais-tu, ça?
Non, pas du tout. Et j'ignorais qu'un Québécois travaillait sur la mission New Horizon.
Oui, oui.
Et c'est vrai, quand il te parlait de l'histoire de la balle de golf, là, il dit, tu frappes une balle de golf, puis t'imagines qu'elle doit tomber dans un trou à Vancouver.
C'est
là,
ça,
parce qu'on
c'est
est tellement loin.
Exact.
Et tu dois aussi faire le calcul, hein, c'est-à-dire qu'au moment où on envoie le signal pour déplacer la sonde, il doit visiter la pierre Tulée qui se trouve dans la ceinture de Kuiper.
Oui.
Il faut qu'il calcule où elle sera au moment, parce que tout ça bouge, hein, c'est pas immobile, donc tout ça bouge et ces gens-là doivent calculer où ça sera exactement.
La trajectoire. Pour pouvoir s'en approcher et pouvoir nous renvoyer des images éventuellement.
Bon, la pierre bouge, la sonde bouge et à un moment donné, il doit y avoir un point de collision, si je puis dire, où la sonde va rencontrer le corps astral à visiter.
À 6 milliards de kilomètres, t'imagines? À 6 milliards de kilomètres, garder le contact, être capable de la guider.
Écoute, moi, Bernard, ce qui m'a le plus impressionné dans la sonde New Horizon, je vais te faire cette confidence-là. Quand j'étais gamin, on regardait des livres d'astronomie, on voyait l'espace, on voyait un petit point blanc, et là, il y avait une flèche qui marquait Pluton. Pluton, c'est un point blanc sur une photographie noire. Jamais de mon vivant, j'aurais cru qu'un jour, je verrais des images rapprochées de Pluton.
C'était tellement
loin qu'on ne pouvait pas imaginer ça. Et 2015, New Horizon nous envoie des images de Pluton comme si on y était.
Ah, c'était absolument extraordinaire.
Et ça prouve comment on s'habitue facilement au fantastique. Au moment où on se parle, Bernard, il y a sur Mars un robot qui vient de se poser sur Mars et nous envoie des images de ce monde lointain. On est ici, nous, derrière nos micros.
Oui.
Pendant qu'un robot sur Mars écoute le vent et regarde autour de lui.
Ah non, c'est fascinant. C'est absolument extraordinaire. Puis en 2019, je pense qu'on va avoir quelques discussions sur ça, parce qu'on va en avoir des images en masse qui vont nous parvenir de Mars. Ça nous donnera de la matière à...
Là, on sait qu'au cours des derniers jours, InSight a placé une sorte d'appareil pour détecter les secousses sismiques dans le sol de Mars. C'est une de ses grandes missions, d'ailleurs. Écouter, ou en tout cas détecter ou documenter le mouvement géologique de la planète Mars. On vit une époque où la science vraiment nous transporte complètement ailleurs.
Absolument. Ben, Christian, je te souhaite un joyeux Noël.
Ben, toi aussi, Bernard.
C'est toujours un plaisir. On se reparle en 2019.
Oui, absolument.
Alors voilà, à vous les auditeurs, écoutez, soyez prudents sur les routes. Profitez de ce moment-là. On a le temps de s'arrêter un petit peu, de reprendre notre souffle, de se reposer, de se donner de l'amour. Et puis, c'est ça, j'ai hâte de vous retrouver au mois de janvier. Donc, je serai de retour, c'est le 9 janvier, on va se reparler. J'aimerais ça en profiter, évidemment, pour remercier Alexandra Marcoux, Maryse, et Maryse Duchesneau et Larry Dufresne. Merci d'être là. Merci aux patrons également qui me font confiance, Michel, Nadia et Philippe. Salut tout le monde.